14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
On ne peut pas accuser quelqu'un de meurtre alors que la personne est morte d'une bronchopneumopathie et que ça a été prouvé. Je perds la personne avec qui je vivais et ensuite on m'accuse de trucs épouvantables.
Bonjour. Peter Aikin était l'un des producteurs de musique les plus discrets, mais aussi les plus respectés des années 90. Dans le sillage d'Elton John, il avait également fait la carrière de Billy Joel. À l'automne 2008, on le retrouve mort dans un hôtel parisien, un décès tout aussi brutal que suspect, qui va dévoiler un théâtre d'ombre. Avec l'entrée en scène d'un personnage sulfureux, le dénommé Alexandre Despalières, un homme aux vies multiples qui s'était immiscé dans celle du très riche Peter Aikin, avec le projet, semble-t-il, de profiter de sa fortune. C'est ce que vont finir par penser les proches du producteur, mais aussi la brigade criminelle et un juge d'instruction qui vont voir en ce personnage, certes, un playboy charmeur, mais surtout un empoisonneur chevronné. Après une interminable enquête, Alexandre Despalières devait être jugé à l'été 2022 pour la mort de Peter Aikin. Procès qui se tiendra sans lui. L'accusé principal est mort à la fin du mois de janvier de cette même année. Était-il l'assassin d'un homme riche? Question posée aujourd'hui aux acteurs et témoins de cette histoire.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire d'Alexandre Despalières. À l'automne 2008, cet homme, bien connu dans quelques cercles influents et fortunés, apparaît au détour d'une mort aussi subite qu'incompréhensible, celle d'un célèbre producteur de musique. Ce 12 novembre 2008, dans l'après-midi, un homme affolé déboule à la réception de l'hôtel Abba Montparnasse, rue de la Gaîté, à Paris. Ce client demande qu'on appelle immédiatement les pompiers. Il vient de retrouver dans la chambre voisine son ami Peter Aikin, qui est mal en point. Il ne respire plus. Les secours sont rapidement sur place. Peter Aikin, 62 ans, de nationalité australienne, gît dans son lit. Il n'y a plus rien à faire. Le décès est constaté à 16h55. Sur place, les pompiers puis les gardiens de la paix ne relèvent aucun détail suspect. Le médecin note toutefois la présence de nombreux médicaments, parfois au sol, sous la table de chevet et dans une sacoche. Une batterie d'anti-inflammatoires, de pénicilline, d'aspirine, antibiotiques, antiparasitaire, une quinzaine de produits au total, une mini-pharmacie. Le docteur indique avoir discuté avec l'homme, se présentant comme le compagnon du défunt, Alexandre Despalières, un Français de 40 ans. C'est lui qui a prévenu les secours. Il semblait effondré, anéanti, n'acceptant pas cette mort et répétant en boucle que Peter avait besoin tout de suite d'une greffe de foie et qu'il allait lui donner le sien. Alexandre Despalières est entendu par la police. Il explique que Peter Aikin est arrivé 6 jours plus tôt à Paris, le 6 novembre, en provenance de Bruxelles. Dès le premier soir, il a fait une chute dans un escalier. Les pompiers ont été appelés, une simple perte d'équilibre, aucune blessure sérieuse. La nuit suivante, il était ivre et a fait un malaise. Il a refusé d'être transporté à l'hôpital. 8 novembre, on le conduit à Cochin, il est déshydraté, en détresse respiratoire, il refuse les soins. Même scénario le 11 novembre, à la Salpêtrière. Les médecins détectent une grave hépatite après une trop grande prise de paracétamol. On l'avertit qu'il est en danger de mort, mais le patient signe décharge. Despalières assure qu'il l'avait pourtant convaincu de rester hospitalisé. Le soir même, Peter Aikin téléphone à son ancienne assistante, Anne-Marie Nicole, pour lui dire qu'il n'a jamais été aussi mal de sa vie et veut rentrer à Londres. Il meurt dans les heures qui suivent. Anne-Marie Nicole indique qu'elle a alors joint Despalières et son assistant Jérémy B. Mais tous deux auraient refusé un rapatriement. L'autopsie détecte effectivement une hépatite aiguë. Il s'agit d'une mort naturelle. 8 jours après le décès, Peter Aikin est incinéré à la demande d'Alexandre Despalières au crématorium du Père Lachaise. C'est tout juste si les proches de cet ancien directeur de Warner Music ont été prévenus. 8 personnes sont présentes à la cérémonie jugée express et sinistre par l'un des participants, John Reed, le producteur d'Elton John. Reed est étonné de cette mort très rapide car selon lui, Peter, bien qu'en surpoids, était en très bonne santé, n'abusait jamais de médicaments et écoutait les médecins. Alexandre Despalières et Peter Aikin s'étaient rencontrés il y a une vingtaine d'années à San Francisco. Ils s'étaient brièvement fréquentés, s'affichant à un concert d'Elton John, puis s'étaient perdus de vue. Il y a 6 mois, le français est soudain réapparu dans la vie de Peter Aikin. Ce dernier l'a alors pris sous son aile, car Alexandre souffrait d'une double tumeur au cerveau et ses jours étaient comptés. Alexandre lui avait notamment demandé de s'occuper de ses biens car il était mourant. Il avait fait fortune dans l'industrie Internet. Le 30 octobre 2008, soit à peine 15 jours avant le décès, les deux hommes se sont discrètement mariés à la mairie de Chelsea. Une première pour Aikin, célibataire endurci, qui préférait la vie en solitaire. Et on va voir, évidemment, dans cette heure du crime, ce que cache ou pas ce mariage célébré à Londres. La mort de Peter Aikin, pour le moment, est déclarée naturelle, mais évidemment, elle va entraîner et attirer bien des soupçons. Bonjour Timothée Boutry.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal Le Parisien et vous avez parfaitement suivi toute cette enquête. Première question toute simple. Peter Aikin, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu du showbiz anglo-saxon. Il est, on peut le dire comme ça, célèbre et riche.
Ah oui, immensément riche, il est à la tête d'une grande fortune, c'est un des patrons de la Warner Music, c'était le producteur de Madonna, un ami de d'Elton John, donc c'est quelqu'un qui a fait une brillante carrière, qui a des amis riches et célèbres et qui s'est donc constitué une fortune considérable au gré de son parcours professionnel.
Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, Despalières et lui ?
Alors ils se sont d'abord rencontrés une première fois en 1988 en Californie. Alors je ne sais pas exactement les circonstances de cette rencontre, mais il y a une liaison de quelques mois qui a eu lieu entre eux. Alexandre Despalières, il était jeune, il est beau, il est séduisant. Voilà, il y a une idylle qui se noue. Après, ça s'interrompt, mais ils restent en contact de loin en loin. Enfin, ils se voient pas souvent, mais le contact n'est pas totalement rompu et ils vont se retrouver 20 ans plus tard à l'initiative d'Alexandre Despalières.
D'où est-ce qu'il vient, Alexandre Despalières ? Est-ce qu'on le sait ?
Lui, il a grandi en région parisienne, il est né à Argenteuil, et il va en fait très vite avoir une vie un peu de bohème, et il va sortir un album, un 45 tours, on disait à l'époque, alors qu'il est tout jeune majeur, ça va s'appeler L'amour à mort.
Bon, prédestiné.
Oui, ça évidemment. Alors ça va pas faire un gros carton, mais la pochette, il est effectivement regard de Brest, très séduisant. Sur cette photo, voilà, c'était un peu l'époque aussi qui voulait ça. Et après, il va être un peu jet-setter, voyager, un peu pique-assiette, on va dire aussi. Il va avoir cette vie-là, un peu de bohème, en fait.
Il va aller aux États-Unis, c'est ça.
Oui, il va aller aux États-Unis, il va voyager pas mal en fait, hein. Il va avoir beaucoup d'amants, beaucoup de succès, voilà, une vie de voyage, d'amour,
alors,
sympathique.
Vous le dites, beaucoup de succès, et c'est vrai qu'on dit de lui, c'est quelqu'un qui est irrésistible, c'est un vrai playboy dans tout le sens du terme.
Oui, il est objectivement séduisant, je crois qu'on peut le dire. Il aime plaire, il plaît, il a du bagou, voilà, il sait raconter des histoires, donc effectivement, il attire l'attention et il aime ça.
Bonjour Maître Marion Grégoire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, vous aussi, de l'heure du crime. Et dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime, vous êtes l'avocate du neveu de Peter Aikin, Gary Perritt, qui va d'ailleurs entrer en scène dans cette histoire. Et on va le voir, il va être partie civile dans cette histoire. Et vous défendez ses intérêts. J'ai envie de dire, Marion Grégoire, cette rencontre à nouveau entre ces deux hommes, Peter Aikin et puis ce personnage qui va être très sulfureux, Despalières, c'est presque une attraction fatale. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la vie de Peter Aikin, Despalières ?
Alors, qu'est-ce qu'il vient faire ? Ils se sont rencontrés 20 ans auparavant. Ils ont une brève relation. La réalité, c'est qu'en 2008, quand Alexandre Despalières se présente à Sydney chez M. Aikin, il prétend à M. Aikin qu'il a réalisé combien il était amoureux, qu'il ne l'avait jamais oublié et que, étant sur le point de mourir, il voulait terminer sa vie à ses côtés. La réalité du dossier va nous apprendre qu'il n'en est absolument rien, puisqu'en réalité, Alexandre Despalières n'est pas malade, n'est pas atteint d'une tumeur au cerveau. il n'est pas fortuné non plus, comme il a essayé de le faire croire à M. Aikin, et que la réalité, c'est qu'il va passer les derniers mois auprès de Peter Aikin, dans l'attention de capter sa fortune, qui à l'époque s'élève quand même à 20 millions de livres sterling, et que ce plan est parfaitement mis en place dès son arrivée à Sydney en avril 2008.
Ah, pour vous, c'est une opération qui est largement préméditée. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Ça résulte des investigations qui ont été menées pendant l'instruction. Et ça résulte surtout, et ce qui est très intéressant également dans le dossier, c'est le discours qu'a tenu Alexandre Despalières à Peter Aikin, dont on peut être absolument certain, puisque aujourd'hui nous avons un certain nombre de mails que Peter Aikin échangeait avec ses proches à l'époque, au terme desquels il raconte les conditions dans lesquelles Alexandre Despalières est rentré à nouveau dans sa vie, et qui sont complètement en négation avec toute la réalité matérielle du dossier.
Alors il y a cette, vous l'avez très bien dit, maître Marion Grégoire, il y a cette invention de cette pathologie, de cette maladie. Ça, c'est une espèce d'appât, on pourrait le dire comme ça. C'est en tout cas ce que vont croire les enquêteurs.
Tout à fait. L'idée pour Alexandre Despalières est manifestement de se mettre en tout cas dans une situation de faiblesse vis-à-vis de Peter Aikin, où Peter Aikin pourrait avoir pitié, si je peux dire, et qui a conduit Peter Aikin à faire des choses. J'entends ici leur union qui va intervenir en octobre 2008, l'a accepté Alexandre Despalières à son domicile, alors que Peter Aikin est un célibataire endurci.
Il a personne dans sa vie.
Personne dans sa vie, et c'est quelqu'un qui une vie parfaitement organisée et qui lui va très bien, comme ça. Il est entouré d'amis, de relations professionnelles, de sa famille. Et il ne veut personne dans sa vie jusqu'alors, en tout cas.
Timothée Boutry, on entend ce que dit maître Grégoire, un homme qui, ce Peter Aikin, qui aime plutôt la solitude. Pourtant, il va accepter dans sa vie la venue de Despalières. Et ce fameux Despalières, lui, par contre, il est toujours entouré d'une bande d'amis, dont ce fameux Jérémy B., son assistant, qui le suit partout.
Oui, Jérémy, c'était surtout son amant, en fait, hein, son compagnon, effectivement, qui présente comme son secrétaire. Mais effectivement, il a toujours une petite cour autour de lui, mais c'est quelqu'un, on l'a dit, voilà, qui a beaucoup de bagou, qui est très séduisant et qui est toujours très entouré, en fait.
Ouais, très entouré. Maître Marion Grégoire, on peut le décrire comme ça, Despalières, c'est quelqu'un qui a une espèce de cour autour de lui.
Alors, il a toujours une cour, constituée en général d'amants, beaucoup plus jeunes que lui. Sur lesquels il exerce, à mon sens, une emprise psychologique assez intense, et c'est ce qui résulte du dossier. Et puis il a une cour qui lui permet d'échafauder aussi tous les plans, si je peux dire, qu'il a établis pour pouvoir arriver à ses fins, parce qu'Alexandre Despalières, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui n'a jamais travaillé, et qui a traversé sa vie, il le dira comme ça, au travers des rencontres. Mmh. Et qu'il a besoin des autres pour vivre, et puis pour atteindre le niveau de vie qu'il souhaite avoir.
Le dandy français et sa bande d'amis vont s'installer dans la maison du défunt à Londres, mener la grande vie jusqu'à ce qu'elle, celle-ci soit trop voyante et attire suspicion et dénonciation. Après le décès de son éphémère mari, dont la fortune atteindrait plus de 20 millions d'euros, Alexandre Despalières s'installe dans le grand appartement de Cheney Place, dans le quartier londonien huppé de Chelsea. Un testament d'une page l'a désigné comme le seul légataire d'un homme qui n'avait qu'une lointaine famille en Australie. Il s'agit d'une photocopie. L'original, assure Despalières, a été volé lors d'un cambriolage le jour même des obsèques. Le tribunal de Brighton a validé toutefois cet acte. Le veuf fait refaire la décoration de l'appartement, achète 3 Porsche, une pour lui, 2 autres pour ses amis, Jérémy et Vincent. L'argent coule à flot et fait jaser. 24 février 2009, 3 mois après le décès, une première lettre parvient au procureur de Paris. Elle est signée John Douglas, un ami du producteur. Il s'interroge sur la tumeur mortelle dont souffrirait Alexandre Despalières et sur le fait que 4 personnes de son entourage seraient décédées dans des conditions identiques. physique. 18 juin 2009, Petra Campbell, ex-belle-sœur de Despalières, dépose plainte. Elle raconte que les parents et les grands-parents de celui-ci auraient été retrouvés morts empoisonnés ces 6 dernières années. Ils avaient été aussitôt incinérés. Despalières aurait profité de leur argent. Une analyse toxicologique de certains prélèvements de Peter Aikin, conservé à l'Institut médico-légal, est alors ordonné par le parquet. La brigade criminelle est saisie des causes de la mort. 15 novembre 2009, Gary Perritt, neveu de Peter Aikin, dépose plainte pour meurtre. Il revient sur le testament qui a permis à Alexandre Despalières d'accéder à la fortune du producteur. Un faux grossier qui fait l'objet d'un recours devant la Haute Cour de justice de Londres. Le plaignant fournit un précédent testament daté de 2002, stipulant que l'essentiel de sa fortune revenait à des associations de lutte contre le sida. Peter Aikin demandait expressément à être incinéré dans son pays natal, l'Australie. Il est établi que Aikin et Despalières avaient signé un civil partnership, une sorte de pax, permettant de désigner l'un ou l'autre comme légataire universel. Document établi à la demande du Français qui se disait en fin de vie. Un ex-amant d'Alexandre Despalières le décrit comme un menteur permanent, un homme dangereux qui n'a pas de limite et connaît bien les médicaments au point de trimballer avec lui une pharmacie ambulante. 15 février 2010, 15 mois après le décès, une enquête est ouverte pour assassinat, un juge désigné. Après 4 mois d'investigation et d'audition, Alexandre Despalières et son fidèle secrétaire, Jérémy B., sont interpellés dans une résidence hôtelière dans le 6e arrondissement de Paris. Despalières est soupçonné d'avoir mis en scène la mort de son mari producteur. Il aurait en quelque sorte coupé du monde lors du séjour à l'hôtel de Montparnasse. Despalières, placé en garde à vue, est entendu à 4 reprises. Il dément toute implication dans la mort de Peter Aikin, qui était tout pour lui, assure-t-il. Il affirme que celui-ci s'était confectionné un cocktail médicamenteux comme substitution à la cocaïne. Il décrit un Peter malade, transformé physiquement. Despalières jure qu'il n'est pas l'auteur du testament controversé.
On peut pas m'accuser de faux testament vu que je l'ai pas produit, je l'ai pas fait et je l'ai écarté. Quand je me suis rendu compte de la connerie du papier fait par des gens d'une stupidité sans nom, on l'a fait écarter de la procédure.
Despalières dit que c'est Peter Aikin qui aurait rédigé ce testament sans qu'il le sache. Il reconnaît enfin qu'il ne souffre d'aucune tumeur au cerveau. C'est Peter, dit-il, qui a inventé cette histoire. Timothée Boutry, on vous retrouve, journaliste au Parisien. Ce Despalières, il dément tout en garde à vue, hein?
Ah, il dément tout, oui, il dément tout, et jusqu'au bout, et encore, enfin, je veux dire encore aujourd'hui, non. Il est décédé, mais sa défense, et celle qu'il entendait développer lors de son procès en assises, c'était son innocence, qu'il n'est absolument pas impliqué dans le décès de Peter Aikin, que de toute façon, il n'y a rien, aucun acte positif qui a pu être démontré, on l'a jamais vu donner quoi que ce soit à Peter Aikin, donc c'était vraiment ce que soulignait sa défense, voilà. Alors peut-être il l'a tué, mais où, quand, comment, avec quoi, donc voilà.
Il n'y a pas de preuve, il n'y a pas d'indice, hein, c'est ça.
Voilà, il y a une succession de un faisceau d'indices. Alors c'était suffisant pour le magistrat instructeur pour le mettre en accusation devant la cour d'assises. Alors il y a pas mal d'éléments, mais il y a pas personne n'a dit ah ben j'ai vu Alexandre Despalières mettre des cachets de paracétamol pendant X semaines dans le verre de Peter Aikin et c'est ce qui aurait entraîné cette intoxication au paracétamol. Voilà, c'est ça, c'est le scénario qui a été retenu. Voilà.
On revient, Timothée Boutry, encore un mot sur le testament, qui est la pièce maîtresse. Et d'où est évidence, ce testament, c'est un faux.
Oui, c'est difficilement contestable, puisque ça a été reconnu par les proches d'Alexandre Despalières qui ont effectivement reconnu avoir falsifié le document. Et voilà, sachant que peu de temps auparavant, Alexandre Despalières et Peter Aikin avaient conclu l'équivalent d'un pax en Angleterre, voilà, quand ils s'étaient retrouvés en 2008. Et après, Alexandre Despalières dit que l'original avait été volé dans un cambriolage. Bon, cambriolage, on n'a pas vraiment trouvé trace, mais du coup, il y a ce document qui a été produit et dont effectivement. On peut vraiment douter de l'authenticité à partir du moment où les faussaires présumés ont reconnu qu'ils avaient fait un faux. Et il faut savoir que ce testament a été annulé par un tribunal civil à Londres et que Alexandre Despalières a été condamné à rembourser les sommes qu'il avait perçues, plus une amende de 50 000 livres. Voilà, donc il y a quand même un élément moins objectif qui est ce testament faux et un testament qui avait été révoqué.
Maître Marion Grégoire, vous défendez Gary Perritte, qui est le neveu de Peter Aikin, qui vient donc dans cette histoire, on vient de le raconter, qui vient de déposer plainte, et c'est lui qui va mettre un petit peu le feu aux poudres. C'est cette plainte qui va déclencher les suites judiciaires. Il faut que vous nous expliquiez, maître, il y a un échange de chèques de 50 000 dollars. Ils se sont promis chacun, finalement, fidélité jusqu'à la mort, et celui qui mourrait le premier récupérerait la fortune du second, c'est ça ?
Tout à fait. Ces chèques sont échangés en octobre 2008, peu avant la conclusion du partnership entre Despalières et Aikin. L'idée était que chacun conserve son chèque. Peter Aikin va se rendre compte que dans les jours qui suivent, Alexandre Despalières ira directement encaisser le chèque. Il y a plusieurs témoignages des proches d'Aikin qui relatent le fait que Peter Aikin, quand il vient à Paris, voulait confronter Alexandre Despalières à ce sujet.
Ah, c'est important, ça veut dire qu'il vient spécialement à Paris pour s'expliquer en cours.
Alors, c'est ce qu'il semblerait, mais on n'a pas d'éléments suffisamment certains à ce sujet, comme on a pu avoir des écrits d'Aikin à ses proches, des mails, on n'a pas ce type d'éléments. En revanche, on a plusieurs proches qui nous indiquent l'avoir vu peu de temps avant son arrivée à Paris, et notamment un qui l'a vu la veille et qui évoque ses chèques en indiquant que Peter voulait évoquer ce sujet-là avec et confronter Despalières à ce sujet.
Donc il y avait une espèce de face-à-face qui pouvait mal tourner, on peut le voir comme ça.
On peut l'imaginer.
Même si Peter Aikin, il n'a pas la réputation d'être quelqu'un de violent.
Tout
c'est
à fait.
Quelqu'un de rond et d'arrangeant.
Parfaitement.
Alors il y a l'histoire du testament, moi elle m'intéresse beaucoup parce qu'effectivement c'est c'est presque la pièce centrale dans ce dossier. Hein. C'est là où on s'appuie pour récupérer l'argent, c'est très important. Despalières dit, c'est Peter Aikin qui a fait ça dans son coin, finalement. C'est lui qui a rédigé. Et d'ailleurs, il a tellement bien rédigé qu'il a mis dans la boucle mes deux amis, Jérémy et Vincent. Ça, ça tient pas comme histoire.
Alors, ça tient pas du tout. Et c'est confirmé par les déclarations de Jérémy et Vincent dans le cadre de l'instruction. Ça tient d'autant moins que quand on reprend la chronologie des faits, on constatera que, tout d'abord, Peter Aikin n'avait aucune intention de revenir sur le testament, le dernier testament qu'il avait fait en 2002, au profit, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, d'associations de lutte contre le sida. Qu'au moment où Despalières lui demande de changer les termes de son testament, il écrit un mail à mon client Gary Perritte et à l'un de ses amis en disant que ça le met très inconfortable, cette demande, et qu'il n'a pas l'intention de le modifier. Donc ça, c'est un élément essentiel, ce mail qui provient de Peter Aikin. Et on verra que ce testament daté prétendument de 2008 sera en réalité produit par Alexandre Despalières en 2009, lorsqu'il est contesté qu'il puisse hériter de Peter Aikin. Donc il le produit de manière tout à fait opportune en disant... ce testament existait, je n'en avais pas parlé jusqu'alors parce qu'il avait été dérobé. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu cambriolage, il n'y a jamais eu d'effraction dans l'appartement où il aurait été volé, il n'y a pas eu de plainte non plus. Donc ce prétendu vol n'existe pas, bien entendu. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'en réalité, la chronologie des faits démontre quoi ? C'est-à-dire que Alexandre Despalières s'est débrouillé pour s'unir avec Peter Aikin en octobre 2008. La loi anglaise prévoit que lorsque vous êtes paxé avec quelqu'un, vous pouvez hériter de celui-ci lorsque le pax a une durée supérieure à un mois. La réalité, c'est que Peter Aikin va décéder dans le délai d'un mois à la suite de la conclusion de ce pax.
C'est un curieux hasard.
Curieux hasard. Alexandre Despalières pense pouvoir donc hériter sur la simple conclusion de ce partnership, et parce que son compagnon est décédé après un mois postérieurement à la conclusion de ce partnership, ce qu'il n'a pas anticipé, Alexandre Despalières, c'est que Peter Aikin est australien. Or, la loi applicable à sa succession est donc la loi australienne. Et la loi australienne ne reconnaît pas le partnership anglais. C'est la raison pour laquelle Despalières produit ce faux testament en 2009.
Peter Aikin, Timothée Boutry, effectivement, il y a cette histoire de testament qui est très intéressante, et ce montage, il n'a pas de problème de santé avant d'arriver à Paris. Peter Aitken?
Non, au contraire, même les nombreux proches de Peter Aitken qui vont être interrogés vont dire qu'il était en bonne santé. Et donc, ils vont contester ils vont s'étonner, en tout cas, de cette succession de malaises lors de ce séjour parisien. Ils vont affirmer qu'il n'avait pas de problème particulier. Donc, ça va aiguiser leur suspicion quant à son décès subit lors de ce séjour à Paris.
Pas de preuves ni d'aveux, même si le Playboy est mis en examen pour assassinat, faux et usage de faux, tout comme ses fidèles, Jérémy, Vincent et Laetitia, une jeune femme qui fait partie de son entourage. L'enquête est loin d'être terminée. Le juge parisien essaie d'en savoir plus sur le passé et les faits et gestes d'Alexandre Despalières, un homme qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice. Sa belle-sœur, dans une plainte, l'avait accusé d'être tout bonnement un tueur en série, un homme qui aurait empoisonné ses parents et grands-parents pour leur argent. Jean-Michel Despalières, un des frères d'Alexandre, dit avoir coupé les ponts après avoir constaté qu'il avait successivement capté les héritages de leurs grands-parents et parents. Il a ainsi des doutes sur la mort de son père, Marcel, un homme pourtant beau, très sportif, en pleine santé, qui se trouvait seul avec Alexandre et l'inévitable Jérémy quand celui-ci est décédé. Il serait mort après avoir absorbé des drogues et des médicaments, comportement qui ne lui ressemblait pas du tout. Un suicide, alors qu'il avait plein de projets. Leur mère, Monique, est morte quelques mois plus tard de la même façon. Selon Alexandre Despalières, elle n'aurait pas supporté le décès de son mari. La belle-sœur, Petra, est persuadée que la lettre d'adieu écrite par Monique l'est en fait de la main d'Alexandre. Face aux enquêteurs, Jean-Michel Despalières décrit son frère comme un gourou obsédé par l'argent, un escroc, un menteur, un manipulateur habitué à jouer de la corde sensible avec tous ceux qu'il rencontre, déclarant des maladies imaginaires qui allaient l'emporter, des cancers, le fait qu'il devenait aveugle. Alexandre souffrait réellement d'une seule maladie pour laquelle il suivait une thérapie, le sida. Il avait une très grande connaissance des médicaments et des posologies. Alexandre maîtrisait à fond le sujet médical, soyez-en persuadés, témoigne le frère. Alors on s'arrête un peu sur ce mystère familial, ces accusations très accablantes avec ces témoignages de la belle-sœur et de l'un de ses frères. C'est pour le moins troublant, Timothée Boutry.
Oui, en fait, ce sont des accusations graves, comme vous l'avez dit, parce que on s'est rendu compte que ses parents, finalement, s'étaient suicidés. Enfin, c'est la conclusion qui avait été faite par absorption médicamenteuse. Alors, évidemment, à l'aune de ce qu'on apprend sur la mort de Peter Aitken, ça fait un peu d'écho. Mais voilà, son frère a des propos très, très, très durs envers lui. Hein. Il est vraiment persuadé qu'il a tué leurs parents. Mais bon, la défense d'Alexandre Despalières dit, à juste titre, qu'aucune enquête n'a jamais été ouverte là-dessus. Et donc, il est absolument pas du tout suspect de ça, voilà. Mais évidemment, ça colore sa personnalité, ça éclaire un petit peu l'affaire. Mais bon, voilà, ce sont des déclarations, pas des accusations, mais effectivement, c'est pas inintéressant dans le panorama général, en fait. Et évidemment, c'est relevé par la justice. Alors, c'est pas conclusif, mais je vous dis, c'est un climat général qui s'installe autour d'Alexandre Despalières.
Oui, un mauvais climat général, on peut le penser comme ça. Maître Marion Grégoire, avocate du neveu de Peter Aitken, de Gary Perritte, qui a déposé plainte dans cette histoire. À l'époque, le frère d'Alexandre Despalières, lui, il a déposé, je crois, une main courante dans un commissariat ou une gendarmerie, je ne sais pas.
Oui, il a déposé une main courante, mais procéduralement, les mains courantes ne saisissent pas le procureur de la République comme peuvent le faire une plainte pour déclencher une enquête. Il n'y a donc pas eu d'enquête menée sur le décès de la mère d'Alexandre Despalières et de son père, peu de temps avant. Ce sont donc des faits et des déclarations qui figurent dans le dossier de l'instruction, mais ce sont des faits dont le juge d'instruction n'était pas saisi. Nous pouvons donc que constater et que lire ces déclarations à la lumière des faits qui ont été reprochés à Alexandre Despalières, mais on ne peut pas aller plus loin que cela.
Qu'est-ce qu'il dit, Timothée Boutry, Despalières au sujet de ses parents et de ses accusations ?
Lui, il conteste évidemment toute implication. Hein. Et je vous dis, d'autant plus qu'aucune enquête n'a jamais été ouverte et qu'il n'est absolument pas accusé de ça du tout. Donc voilà, c'est absolument pas quelque chose dont on peut lui faire grief. Mais ce sont des accusations, en tout cas, qui sont portées par son frère, qu'il le décrit comme un gourou obsédé par l'argent, mythomane. Donc voilà, il y a quand même un antagonisme extrêmement fort.
Maître Grégoire, il va se présenter, Alexandre Despalières, un peu comme un orphelin, quelqu'un qui a tout perdu. Là aussi, il va réinventer, réécrire une histoire.
Alexandre Despalières se réinvente, comme vous le dites parfaitement, perpétuellement. Il va prétendre auprès de Peter Aikin qu'il a fait fortune, ce qui n'était pas le cas, qu'il était malade, en tout cas atteint d'une tumeur du cerveau, ce qui n'était pas le cas, et surtout qu'il souhaite que Peter Aikin hérite de sa prétendue fortune parce qu'il ne s'entend pas avec ses frères et qu'il n'a plus ses parents. Donc en effet, il prétend ne plus avoir de famille, ou en tout cas plus aucun contact familial.
Parce que Despalières, c'est une famille modeste, c'est pas des familles qui ont une grande fortune. Enfin,
c'est une famille
aisée, mais...
C'est une famille modeste, qui n'était pas dans la pauvreté, une famille modeste, sans absolument aucune fortune, c'est absolument certain.
Encore un mot, Maître Grégoire, parce que ça aussi c'est intéressant dans cette histoire. Son frère dit, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le sujet médical. Alors évidemment, il y a ces maladies qui s'inventent, mais aussi là, on a l'impression qu'il connaît tout de la pharmacie mondiale.
Alors ça, c'est un des éléments essentiels du dossier, parce qu'en effet, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Alexandre Despalières n'a eu aucune éducation médicale, il n'a pas fait d'études de médecine, alors il se prétend parfois auprès de certains comme étant médecin. Mais ce qui est très intéressant sur ce point, c'est que toutes les personnes qu'il va rencontrer au cours de sa vie vont vous dire la même chose. Et je vous parle de personnes qui n'ont aucun lien entre elles, qui n'habitent pas au même endroit, qui ne se sont donc jamais rencontrées. Et chaque personne va vous dire, Alexandre Despalières connaissait parfaitement les posologies des médicaments. C'était un Vidal ambulant, certains vont dire. Et que Alexandre Despalières avait constamment avec lui un certain nombre de médicaments.
Pas de suite donc pour ce volet familial, même s'il assombrit considérablement le portrait du principal intéressé, un homme qui serait animé par la quête obsessionnelle de l'argent. Alexandre Despalières serait-il, comme en témoigne sa belle-sœur, un manipulateur et un gigolo attiré par la richesse et la célébrité? Ou encore, selon les déclarations d'un ami du producteur australien, un escroc aidé par ses fidèles amis qui n'ont cessé de l'accompagner en France et à l'étranger. Ce témoin, William Gaff, raconte ainsi l'histoire d'une richissime veuve californienne, Marcel Becker. Elle avait fait la connaissance d'Alexandre Despalières et avait été séduite. Il affirmait être héritier d'une richissime famille française et n'était donc pas un chasseur de fortune. Marcel Becker l'avait cru, au point de l'adopter officiellement devant un tribunal comme son fils, en lui donnant son nom de famille. La veuve avait fini par s'apercevoir qu'Alexandre était un affabulateur, intéressé par son compte en banque et avait donc fait annuler l'adoption. Selon le témoignage de William Gaff, la veuve Becker aurait soupçonné Jérémy d'avoir tenté de l'empoisonner. Rumeur restée sans suite. Un autre témoignage indique qu'Alexandre Despalières aurait dérobé et utilisé la carte bancaire d'un jeune homme qui avait voyagé avec lui en Australie. Ce dernier avait amicalement avancé certains frais au point d'être délesté de 15 000 euros qui ne lui avaient jamais été remboursés. Despalières serait encore parvenu à faire signer des documents de reconnaissance de dette à une autre de ses connaissances, etc., etc. Devant le juge, Alexandre Despalières affirme qu'il n'est pas un homme d'argent, même s'il reconnaît avoir toujours été entretenu par des hommes. Alors, entretenu par des hommes, et puis on le voit aussi peut-être par une femme, Maître Marion Grégoire, vous êtes dans le dossier du côté de la partie civile, il y a cette histoire incroyable, parce que on le disait un petit peu hors émission, je vous disais, on découvre chaque jour quasiment un nouveau chapitre de la vie de Despalières, cette vie cachée, cette vie presque parallèle. Et donc là, il y a cette histoire étonnante de cette veuve qui l'adopte.
Oui, alors on a cette veuve qui l'adopte, Marcel Becker, aux États-Unis. Quelques années avant ses retrouvailles avec Peter Aikin, Alexandre Despalières se trouve à Los Angeles et il se lie manifestement d'amitié avec Marcel Becker, qui finit par l'adopter. Les éléments dont on dispose sont assez minces, puisque la réalité, c'est les déclarations des amis de Peter Aikin qui en attestent dans le dossier. Et Madame Becker a été entendue par le FBI à ce sujet. Elle n'a pas souhaité véritablement répondre aux questions du FBI. Elle fera une seule déclaration, très brève, mais qui pour autant parle de soi, puisqu'elle indiquera, elle confirmera avoir adopté Alexandre Despalières et avoir fait annuler cette adoption quelques jours plus tard, parce que d'une part, elle avait compris qu'il en voulait à son argent, et d'autre part, elle le soupçonne de l'avoir, d'avoir essayé de l'empoisonner.
Mais elle n'en dira pas plus parce qu'elle a, elle a peur du scandale aussi.
Sans doute.
Elle a peur du scandale et de sa notoriété. Alors c'est un profil Despalières, au fur et à mesure qu'on avance dans cette émission, il fait un peu penser à Christophe Rocancourt, l'escroc des stars. Et d'ailleurs c'est un personnage dont il a lu les mémoires, dont il aimait bien, il lisait beaucoup de choses à son sujet.
Oui, je pense qu'Alexandre Despalières, c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément reçu une éducation scolaire très très longue. Pour autant, c'était quelqu'un qui était doté de capacités intellectuelles assez élevées et qui était certainement assez cultivé et qui s'intéressait à beaucoup de choses. Ce qui d'ailleurs, à mon sens, lui permettait de naviguer dans les milieux dans lesquels il a pu naviguer de pouvoir et d'argent.
Alors, Alexandre Despalières, il est entretenu par des hommes, Peter Aikin, des hommes toujours riches, parce que ce qui l'intéresse, finalement, Timothée Boutry, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse Despalières, c'est ce qui apparaît, en tout cas dans l'enquête, c'est l'argent.
Il y a beaucoup de gens qui ont gravité autour de lui qui disent ça, hein, c'est ce que dit son frère. Alors c'est vrai que son parcours est émaillé d'accusations comme ça, après parce qu'il a fait un an de détention provisoire au moment où il est mis en examen. Donc là, il était libre depuis 10 ans. Il va d'abord aller en Normandie, où ça va pas très bien se passer. Il va être recueilli par quelqu'un qui va l'accuser d'avoir volé des choses. Et même quand il va en Australie, il est accusé d'avoir pris l'argent de la personne avec qui il voyageait. Donc il y a toujours un peu ce sentiment de pique-assiette, un peu ce sentiment qu'on se fait plus ou moins avoir par des Despalières, et puis il raconte beaucoup d'histoires qui sont pas forcément vraies, donc il y a une espèce de climat autour de lui un peu général et qui ressort de tous les témoignages. C'est vrai que les témoignages compilés pendant l'instruction sont vraiment terribles et dressent de lui un portrait assez saisissant, hein, on l'a dit, d'un homme, d'un menteur, avide d'argent, jet-setter, un jouisseur, mais c'est vrai qu'on a un climat général qui est pas très bon, quoi, pour lui, quoi, ça c'est certain.
Un playboy pour les uns, un gigolo pour les autres. Il va passer quelques temps en prison avant d'être remis en liberté dans l'attente d'un procès qui va tarder à venir. Alexandre Despalières ne sera pas dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris pour y raconter les dernières heures de son compagnon Peter Aikin et sans doute répéter qu'il n'était pour rien dans ce décès. Le playboy est mort le 26 janvier 2022 à l'hôpital Bichat à Paris après avoir été victime d'un malaise. La partie civile, représentée par Gary Perritt, le neveu de Peter Aikin, attendait depuis des années ce procès, se réjouissant avant l'heure que justice soit rendue pour le producteur de musique. L'avocate de Gary Perritt, maître Marion Grégoire, déplore l'impossibilité de juger un individu que les experts psychiatres décrivaient comme un fin stratège, un égocentrique, un homme qui, selon les experts, manquait totalement d'empathie. Des proches l'ont décrit comme une sorte de tyran séducteur et fascinant. Le procès de l'assassinat de Peter Aikin se déroulera du 7 au 17 juin, mais sans le principal accusé, en la seule présence de ses fidèles, Jérémy et Vincent, poursuivis pour faux et complicité d'usage de faux, à propos du testament bidon du malheureux Peter Aikin. Timothée Boutry, on vous retrouve, journaliste au Parisien, et vous avez suivi toute cette histoire. Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre lors de ce procès ?
C'est sûr que bon, Alexandre Despalières est mort innocent, hein, c'est important de le préciser. Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre ? Bah déjà, on l'aurait entendu. Voilà, on aurait mis un peu la confrontation avec ses coprévenus, voilà, sur cette histoire de testament, et puis sur sa relation avec Peter Aikin. Alors, je sais pas qui allait être cité comme témoin, mais son entourage, les gens qu'il avait côtoyés, les experts aussi qui l'ont examiné. Et puis, on aurait pu lui poser des questions sur sa connaissance de la pharmacologie, puisqu'il a été dit qu'il connaissait très très bien les médicaments. Il était surnommé Vidal, comme le dictionnaire médical.
À ce point-là. Donc, ah oui, d'accord.
Ouais, c'est ce que dit son frère. Il dit c'était son dada. Canada, voilà. Donc, on le voyait avec une sacoche remplie de médicaments. Donc ça, on aurait pu lui poser des questions. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous y connaissez son médicament? Bon, ouais, il y avait quand même pas mal de questions à lui poser. Et puis c'est une histoire qui est évidemment tragique, mais également romanesque. On est entre Sydney, l'Angleterre, des soupçons de faux, des gens célèbres, un scénario absolument incroyable. Donc bon, voilà, on avait envie de tirer tout ça au clair. C'est vrai que c'est un procès qui s'annonçait extrêmement intéressant, avec un enjeu évidemment très lourd, puisque on est face à quelqu'un qui est quand même libre depuis 10 ans et qui était suspecté du crime le plus grave. Donc voilà, potentiellement la peine qui pouvait lui être infligée pouvait être très 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 grande.
Maître Marion Grégoire, à ce procès, vous y serez, vous allez représenter l'unique partie civile avec ces deux personnes qui vont être contre ces deux personnes qui vont être jugées. Vous êtes, je le rappelle, l'avocate du neveu de Peter Aikin, Gary Perritt. Vous avez dit, après la mort des Palières, c'est un naufrage judiciaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que vous perdez tout espoir de connaître la vérité, c'est ça?
Oui, c'est un naufrage judiciaire parce que ça fait plus de 10 ans que ce dossier est à l'instruction, que ce dossier a vu intervenir 4 juges successifs, que pendant ces 10 années d'instruction, nous avons cessé la famille et la partie civile de Peter Aikin d'alerter les juges sur un certain nombre de choses, et notamment sur le fait que ce dossier devait avancer, puisque les actes d'instruction avaient été réalisés de manière efficace, en tout cas au début, mais qu'à partir d'un certain moment, il ne s'est plus rien passé, soyons clairs, dans ce dossier, qu'on explique mal qu'un dossier dans lequel il y a eu des mises en examen dès la première année et qu'il n'y avait finalement pas de doute, il n'y a pas eu d'investigation, si vous voulez, sur une possible tierce personne qui n'aurait pas été connue au départ, qui aurait pu intervenir. On n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'à la suite du dépôt de la plainte et de l'ouverture de l'instruction, dans les 6 mois, il y a des arrestations et des mises en examen. Le dossier français, si vous voulez, va servir, par rapport aux éléments qu'on a pu verser et qui résultaient de la procédure anglaise, à faire des expertises. On n'avait pas besoin de 10 ans pour faire les expertises qui ont été réalisées.
C'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi ça, en quelques mots, mais pourquoi ça a pris autant de temps?
Parce que je pense qu'on a eu une succession d'éléments procéduraux, une inactivité en tout cas, je pense, sur les 4 juges, d'un juge en particulier qui ne s'est pas intéressé au dossier, soyons clairs, qui a ensuite quitté ses fonctions sans régler le dossier, qu'un dernier juge est intervenu, et qu'à chaque fois que vous avez un changement de magistrat sur des dossiers de cette nature-là, vous prenez encore pour 2 ans supplémentaires d'instruction. La réalité, c'est que ce dossier, dès 2016, en termes d'investigation, il est terminé.
Et qu'il
n'a pas été réglé, et qu'on a attendu tout ce temps-là avec un mis en cause dont on connaissait quand même l'état de santé. Il y avait un moment où il fallait évidemment, pour l'ensemble des parties, que ce dossier avance. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, la famille de Peter Aikin est face à un désolement le plus total, à une grande, grande colère, parce que finalement, à l'annonce de la mort de Alexandre Despalières, ils ont vu s'éteindre l'espoir d'un débat judiciaire qui leur aurait permis d'apprendre peut-être pas la vérité, parce que on ne saura jamais la vérité, mais en tout cas un certain nombre d'éléments et des éclairages et une réponse judiciaire. Alors Alexandre Despalières, c'est vrai, est mort innocent. La présomption d'innocence est très importante. En revanche, on a quand même une ordonnance de mise en accusation qui reprend l'ensemble des éléments du dossier et qui établissent qu'il y avait un certain nombre d'éléments à charge contre Despalières.
Voilà, donc on n'aura pas l'épilogue avec Despalières à ce procès, puisque effectivement il est décédé et mort innocent, il faut toujours le répéter, c'est la procédure et c'est la loi. Merci beaucoup Maître Marion Grégoire et Timothée Boutry d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.